Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, la réforme de l'assurance chômage va-t-elle créer de l'emploi ? Y avait-il une urgence budgétaire à réformer l'assurance chômage ? La dette de l'UNEDIC s'élève aujourd'hui à 35 milliards d'euros, certes, mais depuis quelque temps, la baisse assez régulière du taux de chômage portait à croire que le système allait se rééquilibrer de lui-même. Baisse confirmée par les derniers chiffres de l'INSEE parus le 14 août. 2 400 000 chômeurs en France métropolitaine au deuxième trimestre, soit une baisse de 0,2 points. Pour les partisans d'une réforme, en revanche, c'est en période de reprise et alors que l'UNEDIC recrée des excédents, qu'il faut s'attaquer aux règles d'indemnisation, d'où le décret publié en plein cœur de l'été qui complique l'accès aux droits, rend les allocations dégressives à partir d'un certain niveau de revenu et instaure un bonus-malus pour pénaliser les entreprises qui embauchent surtout en contrat court. Le but affiché de la réforme, inciter au retour à l'emploi. Oui, mais encore faut-il qu'il y en ait du travail. Les derniers chiffres de la DARES parlent de 200 000 emplois vacants. Pas de quoi satisfaire tout le monde, à moins de verser encore dans les contrats précaires. Alors la réforme de l'assurance chômage peut-elle en créer de l'emploi ? Trois invités pour en débattre jusqu'à 19h. Bonsoir Gilles Bercette.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie associé à l'université d'Aix-Marseille. Bonsoir Bertrand Martineau.
Bonsoir.
Économiste à l'Institut Montaigne et spécialiste du marché du travail. Et bonsoir à vous, Sophie Binet.
Bonsoir.
Co-secrétaire générale de la CGT, des cadres et des techniciens. Merci à vous trois d'être avec nous pour revenir dans un premier temps sur ces chiffres de l'INSEE publiés au cœur de l'été, le 14 août, annonçant 2 400 000 chômeurs en France métropolitaine, en recul de 0,2 points au deuxième trimestre. Le taux de chômage s'établit aujourd'hui à 8,5%. Alors Bertrand Martineau, votre livre « Chômage, inverser la courbe » qui vous avait valu un prix, le prix Turgot, date de 2014. Est-ce que vous avez l'impression que le biseau du grand compas des chiffres du chômage est en train d'amorcer sa descente sur la courbe ?
Oui, c'est une baisse qui est lente, plus lente que la plupart des pays qui ont baissé leur chômage. Mais elle est régulière. Pour être tout à fait honnête, elle a commencé d'ailleurs avant le début du quinquennat Macron, puisque le chômage baisse régulièrement depuis le milieu 2015. Donc on a déjà perdu 2 points de chômage par rapport au maximum. Alors on peut considérer que la baisse est trop lente, effectivement. En même temps, elle est régulière. C'est du 0,5% par an, à peu près. 0,5 points de population active par an. Elle est assez solide. Elle concerne la plupart des catégories de chômeurs. Voilà, donc c'est plutôt porteur d'espoir.
Mais alors si la part de ceux qui cherchent un travail a diminué, est-ce que ça veut dire pour autant que la part de ceux qui ne cherchent plus de travail n'a pas augmenté ? Et ne plus chercher de travail, ça peut vouloir dire être totalement sorti du marché du travail, Sophie Binet ?
Oui, c'est exactement ça le problème. En fait, c'est que ce qu'on appelle le halo du chômage augmente puisque le taux d'inactivité augmente. On a seulement en France 66% des personnes qui sont en emploi, en termes de taux d'emploi. Ce taux est en baisse et donc il y a un retrait inquiétant du marché du travail, notamment de femmes qui sont découragées à l'idée de chercher un emploi. Et puis, il faut aussi regarder l'augmentation de la précarité et enfin l'augmentation du chômage de longue durée qui, à moyen terme, est très inquiétante puisque le chômage de longue durée a plus que doublé depuis 2009 avec plus de 2 millions de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an.
Alors ça voudrait dire, Gilles Bercette, que ces chiffres du chômage sont en fait une vraie fausse baisse.
Écoutez, moi je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Je vois les chiffres. Le taux d'emploi augmente sur un an. Il a augmenté de 0,2 points. Donc le taux d'emploi, c'est le nombre d'emplois divisé par la population en âge d'occuper un emploi. Vous voyez, ce taux d'emploi augmente. Et le taux d'emploi des femmes augmente particulièrement. Il a augmenté de 0,6 points sur un an. Donc on n'est pas du tout dans une situation de retrait du marché du travail, au contraire. On a des emplois qui sont créés, qui sortent des gens du chômage et des personnes qui arrivent sur le marché du travail.
Bertrand Martineau, puis
oui,
Sophie Binet.
C'est un point très important. Pour apprécier l'intérêt d'une baisse du chômage, il faut effectivement coupler l'observation du taux de chômage et l'observation du taux d'emploi. Par exemple, aux États-Unis, ce que dit Madame Binet est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une baisse massive du chômage, mais une baisse relative du taux d'emploi et du taux d'activité. Et effectivement, c'est une baisse du coût du chômage qui est en partie, pas uniquement, mais en partie en trompe-l'œil, parce qu'il y a des retraits de la population active. En France, ce n'est pas le cas. La proportion, comme me dit Gilbert Sept, la proportion de personnes en âge de travailler, donc les 15-64 ans, qui ont effectivement un emploi, peut être précaire, peut être insatisfaisant, mais un emploi, après tout, y compris chez les seniors, très important, progression très importante, y compris même un petit peu chez les jeunes, qui traditionnellement ont des taux d'emploi très bas, ces taux d'emploi progressent en même temps que le taux de chômage diminue. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que cette baisse du taux de chômage est une vraie baisse et une vraie amélioration du marché du travail. Alors bien entendu, il ne faut pas verser dans un optimisme excessif. La situation reste difficile. On a le troisième taux de chômage d'Europe encore au niveau. La précarité est un véritable sujet, effectivement. Mais enfin, les chiffres sont clairs. Et par ailleurs, les chiffres ne sont pas exactement ceux de Mme Binet. Les chômeurs de longue durée, c'est 1 million de personnes, 950 000 très exactement. Je parle des personnes qui ne travaillent pas et qui ne travaillent pas du tout.
Hein,
au sens de l'INSEE, évidemment, c'est-à-dire... Non, pas au sens de Pôle emploi. C'est le taux de chômage, ce qui permet de calculer le taux de chômage, c'est une enquête auprès des ménages de l'INSEE, qui est trimestrielle. Et dans la dernière livraison du taux de chômage de l'INSEE, il y a 950 000 chômeurs de longue durée. C'est énorme, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 2 millions.
Avec toujours ce débat sur la différence qu'il existe entre les chiffres livrés par l'INSEE et les chiffres de Pôle emploi. Pôle emploi
a des nombres... C'est une comparaison internationale et qui a une pertinence économique.
C'est
les chiffres de l'INSEE. Les chiffres de Pôle emploi sont des chiffres administratifs. Et quand, et je vois très bien l'allusion des 2 millions de chômeurs de longue durée au sens de Pôle emploi, ce sont des personnes qui souvent sont en catégorie B et C, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas travaillé du tout pendant la dernière année.
Oui, mais voilà. Sophie Binet.
C'est un vrai sujet, voilà. Mais ce ne sont pas des chômeurs de longue durée au sens, on va dire.
Sophie Binet, encore un peu d'épistémologie, ouais. Et puis on avance.
Les chiffres de Pôle emploi, c'est 2,8 millions de chômeurs de longue durée, donc de plus d'un an, toutes catégories confondues. C'est important à regarder parce que ça veut dire aussi des gens qui sont durablement dans la précarité.
Tout à fait, mais ils ne sont pas chômeurs.
Ce qu'il faut regarder, c'est que moi, j'ai comparé les chiffres de Pôle emploi avec ceux de Pôle emploi qui ont augmenté de deux, qui ont été plus que multipliés par deux depuis la crise de 2009, puisque en 2009, les chiffres, c'était 1,1 million de chômeurs de longue durée. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est une augmentation extrêmement importante et inquiétante du chômage de longue durée. Et pour le taux d'emploi, sur le deuxième trimestre, il a baissé en France le taux d'emploi légèrement en relation avec l'amélioration, selon l'INSEE, du taux de chômage. Je ne suis pas d'accord.
Gilbert Sept.
Juste un petit point. D'abord, tout le monde sera d'accord pour dire que la route est encore longue. Même 8,5% de taux de chômage, c'est énorme. Hein. Comme ça a été dit tout à l'heure, on fait partie des rares pays qui connaissent un fort taux de chômage. Dans les 36 pays de l'OCDE, il n'y a que 4 pays qui ont un taux de chômage supérieur à la France. 4 pays. C'est-à-dire, la crise ne peut plus être invoquée, c'est fini. Les autres pays aussi ont connu la crise. Or, le monde développé qui nous entoure est généralement au plein emploi. Donc, il faut chercher des explications ailleurs que dans la crise économique qui a été générale à tous les pays développés. Ce qu'on observe cependant, même si la route est encore longue, c'est réellement une baisse de chômage, une baisse de la précarité sur un an. Cette baisse de la précarité, on la voit dans le fait que la part des CDI augmente, la part des CDD de l'intérim diminue, la part des temps partiels diminue. Moi, je vois les chiffres fournis par l'INSEE sur un an, voilà les évolutions qu'on observe. Donc c'est des bons emplois, en quelque sorte,
des bons emplois, donc
et qui
CDI...
permettent de faire baisser le chômage en CDI et pas en temps partiel. Vous voyez, des emplois plutôt en temps plein, la part du temps partiel diminue. Donc, faut quand même voir ces réalités économiques sur un an. Néanmoins, la route est longue, premièrement. Deuxièmement, on fait beaucoup d'emplois, on fait baisser le chômage avec une croissance faible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gains de productivité sont très très faibles, sinon nuls. C'est le bon second signe. Vaut mieux, évidemment, avoir une croissance qui se traduit totalement en emploi plutôt qu'en gain de productivité. Néanmoins, ça veut dire qu'il y a peu de grains à moudre pour des augmentations de salaire.
Ça veut donc dire, ce que vous sous-entendez, Gilbert Sept, c'est que si cette baisse n'est pas due à la croissance ou à une bonne conjoncture, ça voudrait dire que ce serait dû à des réformes politiques qui ont été menées ces dernières années. Absolument. Point d'interrogation. C'est vrai qu'il y avait une période, Sophie Binet, où le gouvernement ne voulait plus se prévaloir des chiffres du chômage quand ils étaient bons, parce que c'était prendre le risque d'en être jugé responsable aussi quand ils étaient mauvais. Est-ce que le gouvernement d'Édouard Philippe peut y trouver aujourd'hui, à cette baisse du chômage, quelques motif de fierté et à juste titre.
Écoutez, moi j'attends des études économiques sérieuses sur le sujet. Pour l'instant, il n'y en a pas. ou détrompez-moi, notamment le bilan des ordonnances travail qui sont relativement jeunes. Il n'y a pas eu de bilan en matière de création d'emplois des ordonnances travail, ni des réformes du code du travail précédentes qui étaient celles de François Hollande. Et par contre, pour ce qui est du bilan de la baisse du prix du travail avec les exonérations massives de cotisations sociales qui ont été données aux entreprises et donc les 40 milliards de crédit impôt compétitivité emploi, ce bilan, il a été fait par plusieurs rapports parlementaires et les créations d'emplois sont inexistantes ou très faibles. On parle seulement de centaines de milliers d'emplois créés, ce qui équivaut à un emploi qui coûte extrêmement cher. Et donc à ce prix-là, il vaut mieux créer directement de l'emploi public que de subventionner les entreprises pour recruter.
Alors qu'est-ce qui a créé de l'emploi, Bertrand Martineau?
Écoutez, il y a quand même une coïncidence temporelle assez troublante entre des allègements de charges massives dont toutes les études économétriques montrent que, sur les bas salaires en tout cas, elles créent de l'emploi. Les réformes diverses entamées d'ailleurs bien avant le quinquennat Macron, je pense par exemple à une réforme de 2008 sur la rupture conventionnelle du contrat de travail.
2008, vous étiez vous conseiller de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous êtes...
C'est une réforme majeure du fonctionnement du marché du travail.
Aujourd'hui, il y a des études précises qui chiffrent les conséquences.
C'est très difficile, mais ce que je veux dire, c'est que, comme le rappelait Gilles Berset, il y a une coïncidence quand même assez forte entre le fait qu'il y a des réformes qui ont été faites et qu'on arrive à créer finalement beaucoup d'emplois pour une croissance qui est quand même très faible. Cette année, on va vers 1,3% de croissance et on va sans doute créer à peu près 250 000 emplois nets. Bon, et plutôt des emplois, comme disait Gilbert, en CDI et des emplois à temps plein. Bon, donc, moi, je veux bien que les réformes n'aient absolument aucun lien avec ça. Mais alors, il va falloir trouver quelle est la cause de cet enrichissement de la croissance en emploi.
Oui,
et moi,
je
ne vois que les réformes qui ont été faites ces dernières années. Bon, tout particulièrement. C'est vrai depuis un an et demi, mais pas uniquement. Encore une fois, le CICE, quand vous baissez les charges sur les entreprises, sauf à être dans une économie vaudou un peu magique, baisser les charges sur les entreprises, ça crée de l'emploi. Voilà. Alors plus ou moins, les études sont divergentes effectivement, mais ça crée forcément de l'emploi, surtout si c'est concentré sur les bas salaires.
Et surtout, ça fait très cher le prix d'un emploi créé, puisque là où tout le monde est d'accord, c'est que les études montrent que un emploi créé, ça serait entre 30 et 40 000 euros. Dans ce cas-là, vraiment, autant recruter directement par de l'emploi public plutôt que de subventionner les entreprises pour qu'elles recrutent. La politique qui a créé de l'emploi massivement en France, c'est la réduction du temps de travail, la réduction collective du temps de travail qui a créé des millions d'emplois. En France, jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule qui ait permis de créer de l'emploi et pour beaucoup moins cher que les exonérations de cotisations sociales massives qui ont été offertes aux entreprises ces dernières années.
Alors la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle parle de chiffres qui reflètent l'action résolue et cohérente du gouvernement, je la cite, et notamment, dit-elle, des transformations du code du travail, de l'apprentissage et de la formation professionnelle qui portent leurs fruits. Ça voudrait dire, Gilles Berset, que la réforme de la formation professionnelle qui a été votée en septembre dernier, c'est il n'y a pas très longtemps, elle aurait déjà... porter ses fruits, tous les CFA se seraient mis au diapason, rempli leur salle de cours des élèves qui manquaient jusque-là, trouver des entreprises pour embaucher des jeunes apprentis.
Non, parmi toutes les réformes qui ont été décidées et engagées, celle de la formation professionnelle s'inscrit dans le temps le plus long. Vous voyez, donc là, c'est une réforme d'ailleurs dont la mise en œuvre n'est pas encore complète. France Compétences commence simplement.
Là, c'est la rentrée, quoi.
À s'installer, à se former, à savoir comment ils vont travailler pour faire l'évaluation des prestataires de formation professionnelle, ce qui est vraiment quelque chose, un travail très très lourd. Il y a 60 000 prestataires de formation professionnelle en France. Donc, vous voyez, la formation professionnelle est une réforme utile, vraiment très bonne, mais qui s'inscrit dans un temps très très long. Ce n'est pas encore ses effets que l'on voit dans l'enrichissement de la croissance en emploi. Par contre, effectivement, la baisse du coût du travail par le CICE, c'est une réforme qui a des effets progressifs, plus important. Heureusement d'ailleurs que ce type de politique a été engagé par tous les gouvernements, de gauche, de droite, avec des ministres socialistes communistes, avec des ministres de... Vous voyez, tous les gouvernements l'ont fait, l'ont dynamisé, cette politique depuis 1993. Pourquoi ? Eh bien parce que
donc,
énormément...
Pourquoi est-ce qu'on reste à un taux de chômage aussi élevé alors que cette politique est conduite depuis 1993 ?
On reste à un taux de chômage aussi élevé alors que d'autres pays... sont au plein emploi, la majorité des autres pays sont au plein emploi, parce que
alors
justement...
Faut-il regarder la définition de plein emploi ?
Parce que justement, nous n'avons pas engagé ces réformes-là assez
de façon assez précoce.
Depuis 93,
justement, celle-là, on l'a engagée à petite dose. Mais il y a beaucoup d'autres réformes qui restent à faire. Celle de la formation professionnelle a juste été décidée. Sa mise en œuvre est en train de se faire. La réforme du Code du travail, pour parler simplement, est une réforme qui a été décidée fin 2017, dont les effets, évidemment, sont engrangés progressivement.
Et il y en avait d'autres avant.
Et sur le CICE, si je peux me permettre... Sur le CICE, on est encore loin du but. Faut quand même, quand on se compare aux autres pays, puisque vous faites cette comparaison, nous avons le coût du travail au niveau du salaire minimum, le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, 28 pays de l'OCDE.
Comment vous faites vos comparaisons? Dans l'industrie en Allemagne, les salaires sont plus élevés qu'en France. L'industrie allemande va très bien.
On va parler de ça, si vous voulez. Moi, je parle de salaire minimum. Salaire minimum, le coût du travail au niveau le salaire net minimum est le plus élevé en France de tous les pays développés. On arrive à faire en sorte que ça ne se traduise pas dans les coûts, et dans les coûts au niveau du SMIC. On est dans le peloton grâce à ces politiques de réduction des charges sociales qui ont été engagées par tous les gouvernements, de gauche, de droite, depuis 1993.
Alors, on a engagé des réductions de charges sociales à destination des entreprises. On a aussi, au fil des ans, simplifié très souvent les démarches des entreprises pour embaucher en contrat court, en CDD. Et aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage dit les chefs d'entreprise qui embauchent trop en contrat court seront pénalisés. Est-ce que cette mesure de bonus-malus est de nature à créer de l'emploi? Pour en revenir au thème de l'émission, Bertrand Martineau.
Alors, créer de l'emploi net, c'est pas évident. Faire basculer des contrats courts vers des embauches en CDI, oui, à condition que ce système soit assez puissant, assez universel, concerne tous les secteurs de l'économie. Or, c'est un des défauts de la cuirasse de la réforme de l'assurance chômage, c'est que le gouvernement, pour des raisons sans doute politiques et de relations avec le patronat, a décidé de le faire sur une base en fait plutôt expérimentale, qui commencera qu'en 2021, donc ne pourra même pas être évaluée d'ici les élections présidentielles de 2022, ne concerne que quelques secteurs, avec une modulation des contributions employeurs qui est faible de plus ou moins 1%, le tout avec une usine à gaz absolument ahurissante, avec des secteurs en plus qui ne sont pas homogènes entre eux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même secteur, vous avez des entreprises, des branches professionnelles qui sont dans des situations totalement différentes. Donc c'est une gigantesque usine à gaz qui va coûter très cher en termes de compréhension, de paperasserie probablement, enfin de paperasserie, pas forcément sur papier, mais digitale. Le tout pour une modulation de cotisation patronale très faible, donc je pense que l'effet sera rigoureusement nul. Sur ce point de vue-là. Et c'est dommage parce qu'une assurance, une modulation des cotisations intelligente, bien conçue, pouvait probablement avoir un effet stabilisant sur l'emploi.
Mais avec toujours cette contradiction que je voulais vous soumettre, Sophie Binet, la Cour de cassation en 2003 a reconnu que certains contrats courts dits d'usage étaient le type normal de contrat dans certains secteurs. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut pénaliser les entreprises qui y ont recours. Est-ce que vous trouvez cohérente la politique du gouvernement en la matière sur les contrats courts?
En l'occurrence, malheureusement, oui, puisque les CDD d'usage sont exclus de la mesure de surtaxation des contrats courts. Donc effectivement, cette mesure...
Notamment en cours à Radio France.
Voilà, cette mesure ne changera rien à la précarité.
Une surtaxation quand même de 10 euros.
Non, justement, cette surtaxation, pour l'instant, n'est pas prévue par le décret que le gouvernement a sorti. Le décret de juillet, cette surtaxation n'y est pas dedans.
Donc 10 euros, ça ne paraît pas beaucoup, mais la grande majorité de ces contrats sont des contrats d'une journée.
Oui, d'accord.
10 euros sur une journée, ce n'est pas négligeable.
Pour l'instant,
on va attendre les textes.
Nous avons les textes, je les ai eus, je les ai compulsés, et donc cette surtaxation n'y figure pas. Donc il y a seulement les CDD de moins d'un mois qui sont concernés, et encore sous certaines conditions, dans un nombre restreint de secteurs. Donc la mesure n'aura aucun impact pour faire baisser la précarité. Par contre, dans ces réformes précédentes, le gouvernement a au contraire facilité le recours aux contrats courts, avec une facilitation du recours aux CDD notamment, aux contrats d'intérim, etc. Donc la précarité ne va pas reculer du fait de ces mesures. Au contraire, c'est très inquiétant. C'est tout le problème de la réforme de l'assurance chômage, puisqu'on a plus de 3 milliards d'économies qui sont supportées exclusivement par les plus précaires, les cadres, les chômeurs et les salariés.
Gilles Berset, certains secteurs ne sont pas concernés par cette réforme. Par exemple, dans le médico-social, il existe des contrats de 30 minutes pour assurer le repas d'une personne âgée. Et ça continue. Ce ne sera pas taxé.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon, d'abord, il faut souligner tout le côté évidemment néfaste du recours très très fort au contrat court. La France est avec la Belgique le pays européen dans lequel le recours au contrat court est le plus élevé. La Belgique est n'est quand même pas une référence en termes d'équilibre du marché du travail et de taux de chômage. C'est le premier point. Contrat court, c'est des gens qui sont enfermés dans des situations de précarité, très souvent. Et puis, pour les entreprises, c'est un rejet, en quelque sorte, des coûts, une externalisation des coûts vers l'assurance chômage et donc vers la collectivité. À ces deux titres, il est bon de s'y attaquer. Effectivement, la réforme engagée s'y attaque bien du côté des salariés en enlevant en quelque sorte certains avantages exorbitants pour des salariés qui, pour certains d'entre eux, ça pouvait aboutir à une indemnisation supérieure à ce que ces salariés auraient pu obtenir en travaillant à temps plein dans leur qualification. Donc on était dans certaines absurdités.
Mais vous savez, Gilles Berset, combien il est difficile pour quelqu'un en CDD de contracter, par exemple, un prêt pour acheter une voiture. Est-ce que vous pensez vraiment que beaucoup de salariés rêvent d'être en CDD?
En contrepartie, il était utile, voire indispensable, de désinciter les entreprises à ce recours au contrat court. Et là, effectivement, ce qui a été choisi, d'abord c'est un dispositif d'une complexité inouïe que les entreprises auront beaucoup de mal à s'approprier, qui est incompréhensible pour beaucoup de gens, avec des incitations basées sur le comportement de l'année précédente, donc pas immédiate, enfin quelque chose de compliqué alors que des propositions beaucoup plus simples étaient sur la table. Deuxièmement, outre la critique qu'on peut faire à ce bonus-malus, le fait que des secteurs en soient exclus est aberrant. Si les contrats courts sont mauvais parce que ça rejette des coûts sur l'assurance chômage, ils sont mauvais où qu'ils soient utilisés. Dans le bâtiment, dans la construction, dans le médico-social, dans les entreprises de moins de 10 salariés, il n'y a pas de raison de les exclure. Ça, c'est le deuxième point vraiment important et le signal qui est adressé. C'est vrai que c'est une petite différence de traitement avec quelque chose qui va dans la bonne direction du côté des salariés, mais qui est très très timide. C'est le moins qu'on puisse dire du côté des entreprises.
Bon, là-dessus, Sophie Binet, vous êtes d'accord?
Oui, sauf que je pense qu'il faut arrêter de faire croire qu'il y a des gens qui choisissent la précarité et qui optimiseraient leur droit à l'assurance chômage. Il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui 60% des inscrits à Pôle emploi qui ne sont pas indemnisés, première chose. Deuxièmement, que le montant moyen de l'indemnisation est de 950 euros par mois, donc on est bien loin des avantages exorbitants qui nous sont dépeints.
Et c'est jamais utilisé comme un complément de revenu, l'assurance chômage, par des personnes qui sont en contrat court.
Heureusement.
Quand on voit suffisant?
Bah non, ça enferme dans la précarité, dans la pauvreté. Je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui en France qui fait le choix de la précarité. Il faut rappeler bien sûr que ça veut dire pas de logement, pas de prévision d'avenir, pas de possibilité de prévoir un avenir et d'investir pour ses enfants. C'est ça la précarité aujourd'hui.
Et les salariés de Pôle emploi qui sont appelés en renfort, parce que dans la réforme il y a aussi ça, des salariés de Pôle emploi vont venir épauler les demandeurs d'emploi, ça part d'un bon sentiment, mais ils seront tous en CDD, Bertrand Martineau.
Alors ça c'est un grand classique. Ça doit faire la quatrième ou la cinquième fois en 10 ans qu'on fait des renforts de Pôle emploi en CDD. Bon, je pense que c'est pas l'aspect le plus important de la réforme.
L'État donne jamais vraiment l'exemple.
Je voulais juste revenir juste 2 minutes sur ce qui a été fait du côté des salariés. Je reprendrai pas à mon compte l'idée d'avantages exorbitants. Je veux dire, juste, c'est des systèmes de calcul assez compliqués, mais pour que ce soit clair pour les auditeurs, il suffit de rappeler que le système qui est là est quand même difficilement défendable sur le plan de l'équité. La question n'est pas de savoir si une forte proportion des chômeurs profite du système ou pas, c'est pas le sujet, c'est pas ça. La communication du gouvernement sur 25% des chômeurs gagnent plus au chômage qu'en étant au travail et en partie biaisé et donne une impression très fausse de la réalité de ce que c'est que le chômage. En revanche, en termes d'équité, je considère que le système actuel n'était pas défendable puisque, pour simplifier, à revenu mensuel antérieur donné, le niveau de l'allocation chômage n'était pas le même. Bon, c'est ça en fait le sujet.
C'est-à-dire bon.
C'est-à-dire que vous pouviez, selon le fait que vous travailliez plus de jours dans le mois ou pas, à revenu mensuel donné, vous pouviez ne pas avoir le même niveau d'allocation chômage, puisque l'allocation chômage était basée sur le calcul du salaire journalier.
Ce qui ne sera plus le cas après la réforme.
Voilà, pas sur la question du revenu mensuel,
oui, mais
du
parce
salaire
que
mensuel antérieur.
La durée de l'allocation n'était pas la même, en fait. C'était ça qui jouait. Il faut regarder l'ensemble des paramètres.
Mais là, on parle je suis d'accord, mais on parle d'épisodes courts de chômage. Donc, on ne parle pas de personnes qui s'installent durablement dans le chômage. Oui, et du coup, y a quand même un problème d'équité évident. Donc, le système actuel était quand même difficilement défendable.
Oui, sauf qu'on aurait pu harmonisé par le haut, première chose. Et deuxièmement, la modification du mode de calcul de l'allocation aura un impact sur le niveau d'allocation des plus précaires.
Par exemple, un exemple sur un revenu donné.
Qui pourra baisser d'environ 50% le montant des allocations des plus précaires. On a assez peu d'études d'impact sur ce sujet, mais on craint le pire sur la chute massive du montant d'allocation des plus précaires. Donc là, c'est vraiment une augmentation de la pauvreté et de la précarité. Moi, je voulais revenir sur la question des 1000 précaires recrutés par Pôle emploi. Je suis pas d'accord sur le fait que ça soit anecdotique, parce que en fait, ce qui se joue derrière, c'est la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et c'est extrêmement important justement quand on veut mettre en place une politique en faveur du retour à l'emploi et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, elle baisse considérablement. D'abord parce que il y a plus de 50% des demandeurs d'emploi qui sont suivis par des opérateurs privés et plus par Pôle emploi. Ensuite, parce que le nombre de personnes suivies par un conseiller de Pôle emploi est de plus en plus élevé. Aujourd'hui, on avoisine en moyenne les 200 personnes suivies par un conseiller de Pôle emploi, et c'est une moyenne, ça dépend des agences. Et enfin, parce que leur travail est totalement vidé de son sens à ces conseillers de Pôle emploi, et on les soumet à une politique du chiffre qui est complètement indépendante et déconnectée du sens et du contenu de leur travail sur la qualité d'un accompagnement, le contenu du projet professionnel de la personne, etc. Et donc, on se retrouve avec des demandeurs d'emploi qui ne sont pas accompagnés sur leur projet professionnel.
Pour insister encore un petit peu sur cette question du bonus-malus et ce titre de l'émission, est-ce que la réforme va créer de l'emploi, Gilbert Sept, si les employeurs découragés par ce bonus-malus se détournent du salariat pour se tourner vers les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les travailleurs détachés, la réforme évidemment aura manqué son coup. Est-ce que c'est ce qui se dessine, ce qui pourrait arriver? C'est-à-dire qu'on fracture encore et qu'on parcellise encore le marché du travail.
Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire sur d'autres créneaux, sur d'autres aspects. Il y a des réflexions qui sont engagées d'ailleurs dans la loi sur la mobilité. Il y a des choses qui sont envisagées, qu'on peut trouver timides, mais qui vont beaucoup plus loin que dans d'autres pays, justement sur ce qu'on peut appeler, entre guillemets, mais pour faire bref, des faux indépendants, et entre autres les travailleurs des plateformes. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a cette réforme de l'indemnisation chômage que rien ne se fait par ailleurs, même si ce qui se fait par ailleurs, pour ces fameux indépendants, et peut être considéré comme timide, même si ça va beaucoup plus loin que dans la majorité des pays qui nous entourent, dont les pays nordiques et scandinaves, sur lesquels on a un petit œil jaloux très très souvent, hein, considérant leur faible niveau d'inégalité. Pour revenir sur l'indemnisation du chômage, si vous voulez, il y a ce qui a été très bien expliqué par Bertrand Martineau tout à l'heure, que je qualifie moi d'avantage exorbitant de certains chômeurs par rapport à d'autres.
Oui, il est clair. Entre parenthèses, on connaît la part de salariés qui refusent un CDI à l'issue d'un CDD. Et pour clore un peu ce débat sur les salariés.
Qu'on connaît, c'est que dans certains secteurs, dans certaines activités, il peut y avoir un avantage réciproque des personnes et des institutions à des emplois courts. Je vais donner un exemple. Ce qui se fait dans les annexes 8 et 10 de l'indemnisation chômage, ce qui s'appelle les intermittents du spectacle, relève d'une politique culturelle structurelle sur laquelle on n'a rien à dire. Le gouvernement, évidemment, a droit d'engager des politiques structurelles et de rendre des comptes sur cette politique structurelle. Néanmoins, ça contribue à plomber les comptes de l'assurance chômage, bon an, mal an, entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Vous voyez, donc ça contribue à cette dette accumulée. Et il est clair que beaucoup d'intermittents du spectacle, beaucoup de techniciens d'ailleurs aussi de l'intermittent du spectacle, sont volontairement enfermés dans cette situation, dans ce statut. Je prends cet exemple parce que tout le monde le connaît un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, encore une fois. Ça veut dire qu'en tout cas, ça relève d'autres politiques et d'autres budgets, ça devrait relever d'autres budgets que celui de l'indemnisation du chômage.
Pour en revenir à Radio France,
le budget,
beaucoup d'intermittents du spectacle qui ont un peu de mal à joindre les deux bouts à la fin de l'année.
Voilà, et oui, cet exemple est surtout complètement hors sujet, puisque les intermittents du spectacle ne sont pas concernés là par les réformes visées, donc l'exemple n'est pas du tout en lien avec ce dont vous parliez. Sur la question des intermittents du spectacle, il y a une surcotisation des intermittents du spectacle et des employeurs, et la CGT fait depuis des années des propositions pour limiter l'abus de recours aux intermittents. Si le gouvernement veut les mettre en place, on est tout à fait disponible sur le sujet.
Alors, la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi une dégressivité des allocations. Alors, d'abord, des droits plus difficiles à obtenir, et c'est peut-être ça concerne encore plus de monde.
Juste, vous me donnez juste la possibilité de réagir sur
quelques
un point.
Secondes.
Effectivement, l'intermittence du spectacle est sortie comme la construction, comme le médico-social, comme les entreprises de moins de 10 salariés, du champ de, du bonus-malus. C'est dommage. Voilà. C'est dommage, mais tout aussi dommage que pour la construction, que pour le médico-social.
Sur les intermittents, il y a déjà une forme de malus, puisqu'il y a déjà une surcotisation dans le secteur.
Mais il y a un déficit structurel.
Bertrand Martineau, suite de la réforme de l'assurance chômage, des droits plus difficiles à obtenir. À l'heure actuelle, il faut avoir travaillé au moins 4 mois sur les 28 écoulés pour toucher le chômage. C'était un système qui a été mis en place il y a 10 ans pour amortir le choc de la crise. Avec la réforme, les personnes seront tenues d'avoir travaillé 6 mois pendant 24 mois, donc d'avoir travaillé plus longtemps sur un laps de temps plus court. Pourquoi le gouvernement estime caduque quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps, en 2008, après une crise qui, dont les effets se font encore ressentir?
Je rappelle que ce système de 4 sur 28, 4 mois à travailler sur 28 mois de référence, a été mis en place par les partenaires sociaux à juste titre, en pleine crise économique, à un moment où le chômage augmentait de entre 80 et 100 000 personnes par mois. Donc c'est une situation de crise. À partir du moment où la baisse du chômage est correctement engagée et que, de manière générale, le marché du travail, par quelques bouts qu'on le prenne, commence à fonctionner quand même mieux, cette exception française très particulière n'a plus aucune raison d'être. La norme en Europe, c'est d'avoir travaillé 12 mois à peu près. Bon, dans certains cas, c'est 6 mois. Mais aucun pays ne va en dessous d'indemnisation du chômage en dessous de 6 mois. Il y avait une exception française là-dessus. J'ajoute que la combinaison de cette règle d'avoir travaillé que 4 mois sur 28 pour commencer à avoir de l'indemnisation, combinée à une autre spécificité qui était les droits rechargeables, c'est-à-dire la possibilité de recharger des droits à l'assurance chômage dès qu'on avait travaillé techniquement 150 heures, faisait qu'en pratique, vous pouviez avoir accumulé en fait des périodes d'emploi court et de chômage pendant des durées illimitées. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dévoiement de l'assurance chômage. C'est-à-dire que fondamentalement, l'assurance chômage est là pour indemniser la perte d'emploi. Il n'a pas vocation pour une fraction importante de la population à devenir un revenu de complément, complémentaire au salaire. Alors je sais bien que c'est une situation qui intéresse également une partie du patronat, parce que dans beaucoup de secteurs d'activité, bon, il y avait les intermittents du spectacle, mais on pourrait parler aussi de secteurs comme l'hôtellerie, café, restauration, où finalement, il est très bien pour l'employeur de pouvoir jouer avec ses CDD, et entre deux CDD, eh bien la personne se retrouve au chômage, sait que de toute façon, elle va retrouver du travail en CDD chez le même employeur, et ce petit jeu peut durer en fait pendant des années. Et il y a un certain nombre de secteurs d'activité où c'est comme ça que ça se passe. Et donc ces droits très particuliers, cette facilité en fait il y a un biais en fait dans le système d'assurance chômage, pour faire simple, il y a un biais en faveur des contrats courts. Voilà, c'est ça le sujet. Et on est sur quelque chose qui devient un revenu de complément de droit commun et qui pouvait durer éternellement. Et donc, il est beaucoup, à mon avis, il est beaucoup plus intelligent d'avoir fait cette réforme un peu systémique plutôt que, par exemple, d'avoir fait une réforme comptable qui consistait, par exemple, à diminuer les droits de tout le monde de 5% ou 10%.
Sophie Binet, je vous laisse répondre et puis aussi insister un peu sur ce qui va se passer pour les cadres, puisque vous représentez les cadres à la CGT.
Tout à fait. Deux choses. D'abord, je crois qu'il faut arrêter de faire croire qu'il y a des personnes qui choisissent d'être au chômage. C'est une insulte pour les 6 millions de chômeurs. Je pense que personne d'entre eux n'a choisi d'être au chômage. Être au chômage aujourd'hui, c'est une privation de droits, c'est une privation d'existence sociale. En France, on sait que le travail joue une part très importante. Donc vraiment, faisons attention à ce type de discours. Deuxième chose, la modification des règles sur la règle des 4 mois et les droits rechargeables, ça va pénaliser 500 000 personnes qui vont perdre leurs droits à allocation, notamment les jeunes. Et puis, je voudrais revenir sur les mesures qui vont concerner les cadres, puisque le gouvernement a fait le choix de mettre en place des mesures extrêmement populaires qui vont viser à instaurer la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. C'est une mesure que je trouve scandaleuse.
En tout cas, pour les cadres rémunérés, 4 500 € brut par mois, ça fait 3 510 € net par mois.
Tout à fait.
Et pour qui, au bout de 7 mois,
le septième mois, l'allocation baissera de 30%. C'est une mesure qui pose problème pour trois raisons. D'abord parce qu'elle est inefficace. Elle a été déjà mise en place en France il y a une quinzaine d'années et toutes les études économiques ont conclu à son inefficacité en matière de retour à l'emploi. Ensuite parce que elle est populiste, puisqu'elle viserait à faire croire qu'il y a des cadres qui choisiraient d'être au chômage pour bénéficier de leurs allocations. Or, les cadres contribuent au financement du régime à hauteur de 42% des recettes via leurs cotisations et ils ne représentent que 15% des dépenses. Et puis enfin, elle est mensongère parce que aujourd'hui, il y a déjà énormément de dispositifs de contrôle des demandeurs d'emploi qui ont justement été durcis, puisque aujourd'hui, les allocations chômage sont suspendues au bout de 2 refus d'une offre d'emploi jugée raisonnable. Et le gouvernement a discrètement, en janvier dernier, modifié la définition d'une offre raisonnable d'emploi, puisque maintenant, si on refuse un emploi qui a un salaire inférieur ou qui a une distance importante du domicile, cet emploi sera considéré comme une offre raisonnable d'emploi.
Je croyais que ça avait été abandonné, ça, cette mesure-là.
Pas du tout.
Pas pour la réforme telle qu'elle a été votée.
Voilà, tout à fait. Cela s'applique. Et donc, au bout de 2 refus d'une offre d'emploi, même si le salaire est inférieur et la distance est importante, les allocations sont suspendues. Donc, c'est scandaleux de faire croire qu'il y a cette disposition. Et en plus, il faudrait instaurer la dégressivité des allocations pour forcer les cadres à revenir au travail. Et enfin, cette disposition, elle va mettre en place un effet de substitution avec des cadres qui vont prendre des boulots moins qualifiés que ceux auxquels ils pourraient prétendre, donc au détriment des autres. Et puis, ça va mettre en place un turnover sur ce type d'emploi, une démotivation des salariés. Enfin, mauvais à tout point de vue et ça stigmatise injustement les cadres. Nous avons fait une pétition qui est disponible sur Internet. J'appelle tous les auditeurs à la signer.
Parce que Gilles Berset, parce que ces cadres ne pourront pas refuser 2 offres d'emploi raisonnables consécutives, mais avec toujours cette question de savoir ce que c'est qu'une offre d'emploi raisonnable.
En tout cas, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cette décision est une sorte de rupture de pacte social avec une population qui contribue. Et qui voit son en quelque sorte ses droits diminuer, alors que son effort de contribution demeure, et alors même que cette population est contributrice nette, alors, bien que la notion de contributeur net, vu qu'une partie des contributions chômage, celles payées par les salariés, est passée du côté de la CSG, c'est un petit peu complexe, mais enfin, en tout cas, elle était contributrice nette et on peut penser qu'elle l'est encore. Et donc, il y a quelque chose qui relève d'une rupture de pacte social par rapport à une population pour laquelle la recherche d'un emploi peut être parfois un peu longue, parce que un travail de cadre, c'est un travail spécialisé dans des domaines très, très particuliers qui peut demander un petit peu plus de temps. C'est une population qui est moins chômage que l'ensemble de la population, l'ensemble des salariés. À tout point de vue, c'est totalement, totalement unique. Donc je veux dire que cette disposition ne se justifie pas, d'autant que son rendement va être assez faible. C'est le deuxième point. Et puis, il faut souligner, il faut le rappeler, puisqu'on parle de mesures de rendement, celle-là n'en est pas tout à fait une, que je dirais que l'indemnisation chômage de droit commun est excédentaire en France. C'est-à-dire, ce qui la rend déficitaire structurellement, c'est le financement du service public de l'emploi. Est-ce que le service public de l'emploi doit être financé par des contributions chômage? C'est une vraie discussion.
Vous parlez de Pôle emploi.
Oui.
Le fonctionnement de Pôle emploi, c'est ça qui rend déficitaire.
Et puis d'autre part, des régimes structurellement déficitaires, comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple les annexes 8 et 10.
Alors, la grande philosophie de cette réforme, ce qui est mis en avant, le pari qu'elle fait, c'est qu'en modifiant les règles d'indemnisation, les gens seront incités à se remettre au travail plus vite, ce qui sous-entend que chacun fait le choix d'être au chômage ou d'y rester. Là-dessus, vous en avez débattu entre vous et avec Sophie Binet. Mais voilà, est-ce que on peut parler de réforme incitative si par ailleurs la conjoncture fait qu'il n'y a pas d'emploi? Et en introduction de cette émission, je citais les chiffres de la DARES qui avance 200 000 à 250 000 emplois vacants. Il n'y a vraiment pas de quoi combler les chiffres du chômage. 3 600 000 chômeurs de catégorie A, chiffre de Pôle emploi, et 2 millions 2 ou 6 de l'INSEE. Enfin voilà, il y a quand même un grand écart entre les emplois vacants tels qu'on nous les présente et les demandeurs d'emploi, Bertrand Martineau.
Oui, alors là, tout ce dont on a parlé, ça vise à modifier certains comportements d'optimisation sur les emplois courts. Donc, la question, ça n'adresse pas la question de l'insuffisance de l'emploi. Donc, ça ne crée pas en soi des emplois. Ça vise en fait à limiter donc les comportements où effectivement l'assurance chômage est considérée comme un revenu complémentaire en permanence qui peut durer un certain nombre d'années. Donc, moi, je serais assez prudent sur la capacité de cette réforme à générer énormément d'emplois. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé dans les nombreux pays qui sont venus au plein emploi ces 10-15 dernières années. Ce qui est important, c'est la cohérence de l'ensemble des réformes. C'est-à-dire qu'une réforme de l'assurance chômage prise isolément n'a pas tellement d'intérêt. Une réforme du marché du travail, du droit du travail pris isolément n'a pas énormément d'intérêt. Mais il est vrai que si vous attaquez le problème par tous les bouts à la fois, une réforme du droit du travail qui donne énormément de souplesse aux entreprises via la négociation collective d'entreprises, à laquelle la CGT d'ailleurs participe énormément puisqu'elle signe bon an mal an 70-75% des accords d'entreprise. Tout ce qui permet par exemple de faciliter les transformations économiques, les restructurations à froid, c'est-à-dire avant qu'il y ait de plans de sauvegarde de l'emploi, des plans sociaux. Tout ça, ça va dans le bon sens. Mais la réforme de la formation professionnelle, y compris d'ailleurs pour les demandeurs d'emploi qui sont le plus éloignés de l'emploi, ça va aussi dans le bon sens. Donc il faut regarder le sujet par tous les bouts et ne pas regarder isolément la réforme de l'assurance chômage.
Mais d'ailleurs, si on devait prendre tous les bouts, comme vous dites, il faudrait aussi s'attaquer au logement, politique de logement, les jeunes cadres ou pas qu'on envoie dans les grandes villes.
Les emplois sont créés très majoritairement dans les métropoles et le prix du logement, effectivement, en métropole a pris des proportions tout à fait considérables, y compris dans des métropoles qui, jusqu'à présent, étaient épargnées par cette flambée des prix.
Et donc, sauf que dans les métropoles, on y trouve des offres que Pôle emploi qualifie de raisonnables et le gouvernement...
Mais tout à fait, il y a de vraies difficultés aussi sur le marché du logement.
Je crois qu'il est clair que cette réforme ne créera aucun emploi. Pour créer des emplois, ce qu'il faudrait, c'est d'abord une réduction collective du temps de travail. On sait que la réforme des 35 heures a créé au moins 400 000 emplois directs.
On ne les a pas vus dans la baisse du chômage.
Vous savez, Sophie Binet, combien les patrons de PME, qui ne sont pas vos ennemis, les patrons de PME, ils contribuent à la création d'emplois. Vous savez combien ils disent aujourd'hui que ça les a pénalisés et que jamais ils ont recruté. C'est quand même très rare de trouver un patron
de PME. Je connais des patrons de PME qui disent que les 35 heures, ça leur a pas posé de problème.
Si les 35 heures avaient permis de baisser le chômage, il me semble que ça serait vu un jour dans les chiffres du chômage.
Ah, ça s'est vu.
Ce dont on est sûr dans les 35 heures, c'est que ça a plombé durablement les finances publiques jusqu'à la fin des temps, puisqu'il y a les allègements de charges compensatoires qui ont été votés par Mme Aubry et ensuite par tous ses successeurs.
Et les allègements de charges du CICE,
deuxièmement,
ça a pas plombé les comptes publics.
La seule chose qu'on sait, c'est que ça a baissé le pouvoir d'achat des personnes parce que, comme dirait le bon sens commun, quand vous travaillez 39 heures à salaire horaire donné, vous gagnez quand même plus que quand vous travaillez 35 heures.
Réduction du temps de travail. Et deuxième chose importante, c'est une politique de relance et d'investissement, notamment en matière de transition environnementale. On a aujourd'hui une urgence écologique qui maintenant est de notoriété publique. Il faut un investissement public massif pour faire face à cette exigence et ça créera de l'emploi.
Gilles Berset, on approche...
Trois points très très courts. D'abord, pour revenir sur les cadres, vous voyez la réalité de la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui est effectivement le travail de Pôle emploi. La dégressivité n'est pas le bon choix pour inciter les gens éventuellement à se porter candidat sur des emplois offerts. Vous voyez, c'est vraiment le rôle de Pôle emploi, s'assurer de la réalité de la recherche d'emploi des personnes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la réduction du temps de travail, dont j'ai été un des artisans, c'est très bien quand les gens sont prêts à la payer. Aujourd'hui,
Merci.
Est-ce que les salariés sont prêts à la payer? Je rappelle qu'en France, la France est l'un des rares pays dans lequel le taux de marge des entreprises diminue.
Et le pays record
diminue.
Des dividendes.
Ouais, diminue. Alors, record des dividendes, effectivement, cette année, enfin,
c'est vrai qu'on dit que le travail doit payer, les dividendes explosent.
Mais néanmoins, on peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de dividendes. Les prélèvements sur le capital restent très élevés en France. Donc pour avoir une rentabilité ex poste équivalente à celle d'autres pays, hélas, faut un taux de distribution plus important. Donc les salariés en tout cas ne sont pas prêts à payer aujourd'hui une réduction du temps de travail. Donc ce débat n'est pas opportun. Et puis un plan d'investissement, encore une fois, comment vous le financez? Qui paye ce plan d'investissement, sachant que la France est déjà, parmi tous les pays de l'OCDE, celui dont les dépenses publiques rapportées au PIB est le plus élevé. On est au-dessus du Danemark, on est au-dessus de la Finlande. Vous voyez, sur 36 pays, c'est nous qui dépensons le plus.
200 milliards d'exonération fiscale pour les entreprises. On peut peut-être faire un plan d'investissement.
Allez, c'est la fin de l'émission. À quoi on peut s'attendre pour la rentrée? Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation? Est-ce que vous allez à la CGT, Sophie Binet, mobiliser les troupes ou c'est trop tard? L'ordonnance est passée de toute façon.
Non, l'ordonnance, elle s'appliquera seulement en novembre. Donc, il y a une pétition qui est disponible en ligne que nous appelons tous les auditeurs et auditrices à signer et une manifestation qui a lieu le 24 septembre.
Voilà, Sophie Binet, je rappelle que vous êtes co-secrétaire générale de la CGT des cadres et techniciens. Merci à vous, Gilles Berset et Bertrand Martineau. Gilles Berset, le bel avenir de la croissance, leçon du 20e siècle pour le futur, est toujours disponible chez Odile Jacob. Quant à vous, Bertrand Martineau, vous avez co-écrit avec Franck Moral chez Fayard un autre droit du travail est possible. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Alia Tovin, Léa Capuano, Roxane Poulain et Valentin Berg. L'émission a été réalisée par Milena Elig avec à la prise de son Pascal Baudin.